Voilà, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient sur nous.
Amen.
C'est de cela qu'on a besoin. Hein. Bon, l'église commence à se remplir, les gens y rentrent. C'est bien. Mon pasteur à Paris, il disait « maudite vacances ». Pourquoi ? Parce qu'il voyait l'église se vider hein, au mois d'août. Mais les vacances, c'est des moments de repos que le Seigneur nous donne. Hein, n'oublions pas de le remercier de ce jour qu'il nous a accordé et que nous puissions, oui, parce que là, au mois de septembre, c'est pour nous dans l'Église, c'est un nouveau commencement, hein, que cette nouvelle année soit à la gloire de Jésus-Christ et peut-être que c'est la dernière année, hein, peut-être que le Seigneur il va venir. Donc, que nous soyons prêts. Je tiens aussi à remercier la famille Sylvestre. Hein, c'est une famille qu'on a toujours aimée et qu'on aime toujours, bien sûr. Hein. Ils ne sont pas partis en vacances, je suppose que c'est pour les mariages de leurs filles. Hein. Voilà, donc soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse. Hein. Voilà, la semaine dernière, je vous ai parlé de la foi. Hein, et on a vu la définition de la foi, et on a vu que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses hein, qu'on ne voit pas. Hein. On a vu aussi que de tous ceux qui sont décrits dans Hébreux 11, hein, que c'est le musée de la foi, hein, les grands hommes qui ont eu cette foi hein, en Dieu, ils sont là par la foi. Hein. Il nous a dit, c'est par la foi que. Hein. Et aussi, dans l'Épître aux Hébreux, toujours, il nous a dit qu'il il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc la foi, c'est quelque chose de très important. Paul il nous dit que nous devons marcher par la foi et pas par la vue. Hein? Et pourquoi ? Parce que les choses qu'on voit aujourd'hui, ils passent. Hein? On l'a chanté tout à l'heure, hein? Que le Seigneur, un jour, il va intervenir. Et la semaine dernière, on a parlé de la foi et on a vu aussi, ça c'était dans l'étude, hein, le dimanche matin, parce qu'on a une étude le dimanche matin, pour ceux qui ne peuvent pas venir le mercredi. Hein, on a vu la définition de la foi. Et la prédication était sur les caractéristiques de la foi. Hein, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on peut avoir point de foi, on peut avoir une petite foi, on peut avoir une grande foi, on peut avoir une foi de grand prix, hein, et on peut avoir une foi parfaite. Ça, on a tout dit la semaine dernière, je n'ai pas à revenir dessus. Donc, voilà la foi. Et aujourd'hui, encore, je vais vous parler de la foi, parce que, encore une fois, c'est très important. Hein. Si on n'a pas la foi, hein, le Seigneur il nous dit « crois », et tu seras sauvé. Avoir la foi, c'est laisser dépendre, se mettre entre les mains. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est quelque chose de précieux. Dans 1er Épître de Pierre, il nous dit même que la foi est plus précieuse que l'or, que l'or. Donc vous voyez, c'est un bon enseignement pour nous. Hein? Avoir la foi, c'est plus précieux que l'or. C'est quelque chose. Et aussi, avoir la foi, c'est par la foi, qu'il nous dit toujours dans Pierre, nous sommes assurés des plus grandes promesses et les plus précieuses que le Dieu il a pu nous donner. Donc, une seule question à poser à chacun de nous, est-ce que nous avons la foi ? Encore une fois, pourquoi ? Parce que sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Hein? C'est la chose que nous devons faire. Et ce matin, j'aimerais vous parler, donc bien sûr on a la foi, mais cette foi que chacun de nous a, Dieu la met à l'épreuve. Hein? On l'a dit aussi ce matin, Adam et Ève, Dieu les a mis dans un jardin, il leur a tout donné, et il lui a dit seulement, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. C'était leur foi, il a été mis à l'épreuve. Est-ce que vous m'aimez parce que je vous donne toutes ces belles choses, ou vous m'aimez parce que vous devez être obéissant? Et donc, on va voir ce matin la foi, l'épreuve dans la foi, à travers un homme biblique qu'on connaît. Il est appelé le père des croyants. Hein? C'est Abraham. On va voir l'épreuve de la foi. Qu'est-ce que c'est qu'on subit? Qu'est-ce que c'est qu'on doit manifester lorsque Dieu il nous envoie ces épreuves? Et il y a aussi dans Jacques, je peux vous lire un verset qu'on connaît aussi. Hein? Dans Jacques 1, verset 12, il nous est dit: heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Hein? C'est marqué la tentation, mais le mot, c'est l'épreuve. Une tentation, c'est une épreuve aussi. Hein? Mais ici, c'est patiemment l'épreuve. Pourquoi? Car après avoir été éprouvé, si on reste fidèle à ce que Dieu nous dit, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à tous ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi le Seigneur il nous envoie des épreuves. On a un grand exemple aussi. Je n'ai pas voulu prendre Job parce qu'on le connaît tellement, donc on connaît son histoire. Hein? Hein? Job qui a été éprouvé, Dieu qui a dit à Satan: « T'as vu Job ? Comme il est intègre et juste. » Et c'est là que Satan, il a dit: oui, il est comme ça parce que tu lui donnes ça et ça et ça et ça. Enlève-lui toutes ces choses-là et tu verras le résultat. On a vu le résultat de Job, hein, après plusieurs épreuves qu'il a passées, et pas une ou deux, hein, il y en a eu quatre, cinq, et les unes derrière les autres. Quelqu'un il venait lui annoncer une difficulté et tout de suite derrière il y en avait un autre, même pas le temps de réfléchir. Mais il est resté fidèle et il a toujours dit: Dieu il a donné et Dieu il m'a repris. Béni soit le nom de Dieu. J'ai pris l'exemple d'Abraham parce que on voit les caractéristiques encore de cette foi. La différente façon d'aborder cette foi. Alors, pour cela, je vous invite à aller dans Genèse 22. C'est encore un épisode qu'on connaît très bien. Et Abraham, il est appelé le père des croyants, le père de la foi. Vous savez qu'Abraham, il était idolâtre. Mais un jour, il avait plusieurs dieux dans le Chaldée, où est-ce qu'il était. Mais un jour, il y a un dieu qui lui a parlé. Et à partir de ce moment, il est resté fidèle à ce dieu qui parle. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Hein? Les gens, ils demandent à Dieu de leur parler. Pourquoi? Il dit: bon, parle, dis-moi quelque chose et je vais croire en toi. Abraham, il est passé par ce chemin-là, mais il n'y avait pas la parole, il n'y avait pas les Écritures. Voilà pourquoi Abraham, lorsqu'il a entendu ce Dieu qui lui parle, il a obéi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Abraham, il a eu la foi en ce Dieu qui l'a parlé, en ce Dieu qui s'est manifesté. Lisons le verset 1 jusqu'à 14. Voilà ce qu'il dit, chapitre 22, 1 à 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit: Abraham. Et il répondit: mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit les bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, lui dit, « Mon père !» Et répondit, « Mais voici mon fils !» Isaac reprit, « Voici les feux et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Mais voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà une belle démonstration de cet homme de foi que Abraham. Au verset 2, on voit quelque chose de très important. Dieu, il se tourne vers Abraham et il lui dit, « Ton unique, c'est lui que tu aimes. Prends ton unique, c'est lui que tu aimes, et va l'offrir dans cette montagne que je te montrerai. Ton unique, c'est lui que tu aimes. C'est lui que tu aimes. » Autrement dit, tout ce qu'Abraham, il avait. Il a attendu 25 ans pour avoir cet enfant. Dieu, il lui a donné. Et lorsqu'il avait un certain âge, Dieu il lui dit, « Va et donne-moi un sacrifice, ton fils. » Il a tout donné. Dieu, il lui a tout pris. Il lui demandait tout. Et c'est ça, la foi. L'épreuve de la foi. Dieu, il nous demande le sacrifice de la foi. C'est-à-dire que Dieu, il nous demande de nous donner entièrement, de mettre tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes à sa disposition. D'ailleurs, dans Hébreux 12, un verset qu'on connaît, il dit « Offrez vos propres corps en sacrifice au Seigneur, car c'est bon et agréable pour Dieu. » Et ici, Abraham, après tant de péripéties pour que cet enfant, parce qu'à cet enfant, ils étaient liés toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu. Et là, voilà que maintenant, Dieu, il lui demandait de sacrifier son fils. C'est le sacrifice. Ça ne vous rappelle rien, ce sacrifice? Jésus-Christ. Dieu, il a donné son fils. Il a donné. À qui il a donné ses fils, son fils? À des êtres ignobles tels que vous et moi. Des êtres qui ne méritaient rien. Lui qui était Dieu, il l'a donné. Il a tout donné. Et c'est en donnant son fils, c'est tout donné. Voilà les sacrifices de la foi. Hein? Qu'est-ce que c'est qui fait Abraham au verset 3? On aurait pu dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là? Il fait quoi au verset 3? Abraham s'éleva de bon matin. Il n'a pas traîné. L'obéissance de la foi. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, nous devons le faire. Sans nous poser des questions. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous le demande. Et nous savons que lorsque Dieu il demande quelque chose, il nous donne les moyens de pouvoir faire la chose. C'est ce qu'il attend de chacun de nous, c'est d'obéir. Il ne demande pas autre chose, le Seigneur. Parce qu'en obéissant au Seigneur, c'est que nous nous mettons entièrement entre ses mains. Des bons matins, il s'éleva. Et c'est par la foi qu'il a obéi. Dans Hébreux 11, il nous a dit que c'est par la foi. Tous les autres grands hommes dans le musée de la foi, il nous a dit, c'est par la foi qu'ils ont fait ça. C'est par la foi qu'ils ont agi comme ça. C'est parce qu'ils croyaient en Dieu. Ils avaient une confiance inouïe en Dieu. Ils savaient que le Seigneur, il était là. Et aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur, il nous demande à chacun de nous. L'obéissance. Mais obéir à qui? À quoi? Obéir à sa parole. Dieu il nous a donné toutes les dispositions dont nous avons besoin pour pouvoir mener une vie agréable à Dieu, une vie de victoire. Tout est là. C'est ce qu'il nous demande, c'est d'obéir. D'obéir et pas faire autre chose. Samuel, il a dit au peuple, à Saül, il a dit, ce qui est agréable à Dieu, c'est l'obéissance, pas les sacrifices. Des fois, on dit, je vais donner ça et ça et ça à Dieu. Dieu, il va m'écouter. Dieu, il va être favorable à mes requêtes. Non, Dieu, il demande d'obéir, c'est tout. Saül, Dieu, il avait dit à Saül de tuer tous les animaux, de vouer par interdit toutes ces choses-là. Et une fois qu'il a gagné la bataille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé les bêtes, les meilleures. Et il a gardé aussi les rois Agag. Il lui avait dit, tu vas tuer tout le monde, tu ne gardes rien, parce que c'est les péchés, c'est la malédiction, toutes ces choses. Et il ne faut pas que ces choses-là y rentrent dans le... Et Saül, il a voulu montrer son bon cœur. Samuel, il est arrivé. Et il a entendu des bêtes. Il a dit, c'est quoi ça? Oui, je l'ai gardé ça pour le... Mais non, Dieu ne demande pas autre chose que l'obéissance. Abraham, c'est ce qu'il a fait. Dieu, il a demandé quelque chose d'inouï pour un père, pour une mère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les lendemains, il n'a même pas... Il n'est pas dit dans la Bible, mais je suis sûr qu'il n'a même pas discuté avec sa femme. Qu'est-ce que j'ai fait? Il avait une seule chose à faire, c'est d'obéir à Dieu. Et Dieu lui demandait un sacrifice. Et il s'est levé des bons matins. Hein? Tout doit être remis à Dieu dans notre propre vie. Ne gardons rien dans notre être où Dieu n'a pas la royauté. Dans la vie d'Abraham, il n'y avait que Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu lui a demandé ce sacrifice, il est parti, c'est l'obéissance. Hein? Et au verset 5, il y a autre chose. Il prépare tout hein? Et il dit aux serviteurs, parce qu'il est parti avec des serviteurs, avec le bois, le feu et tout ça. Et il a dit aux serviteurs, lorsqu'il a vu la montagne, hein? Il a dit aux serviteurs, moi et le jeune homme, nous allons... Montez, vous restez ici et nous reviendrons. Quelqu'un qui réfléchit un peu, il dira, pourquoi est-ce qu'il dit nous reviendrons? Puisqu'il allait offrir son fils, donc le tuer. Mais ici, il dit nous reviendrons. Pourquoi? Ici, c'est l'attente de la foi. Dieu, il lui a dit, je veux que tu offres un sacrifice ton fils. Et lui, il a tout préparé. Et il a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, on va partir et ensuite nous reviendrons. Il avait cette foi en Dieu. Il voulait obéir à Dieu. Parce que Dieu, c'était son tout. Mais il croyait aussi que Dieu, malgré qu'il demande ce sacrifice de son fils, il savait que Dieu, il était aussi puissant pour le ressusciter. Voilà pourquoi il dit, nous reviendrons, nous reviendrons. Et c'est encore ce qui s'est passé avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les gens, ils l'ont refusé en tant que Messie. Ils l'ont crucifié. Il est mort. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Parce que Dieu, il a laissé que l'homme, il agisse comme il le voulait. Mais lui, il a ressuscité pour montrer exactement ce qu'il était. La puissance de Dieu. Et Abraham, il avait la même chose. Abraham, il avait une foi inouïe en Dieu. Tout ce que tu me demandes, je veux le faire. Tout. Tout. Offre-moi ton fils. Oui, je vais te l'offrir, mais je sais que tu peux me le redonner aussi. Un peu comme la Sulamite, que son fils, il était mort. Alors il a été voir le prophète. Et le prophète, il a été la voir, il s'est couché sur l'enfant. Et cet enfant, il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Jésus, sous la tombe de Lazare, ôtez la pierre. Mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Ôtez la pierre. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et il a crié, Lazare, sors. Et il est sorti. Pourquoi? Parce que Dieu, il est tout puissant. Dieu, il peut ressusciter et il va ressusciter tous ceux qui lui font confiance. Savez-vous qu'un jour, nous aussi, nous serons ressuscités? Parce que nous allons mourir tous. Hein? C'est un rendez-vous que personne ne peut manquer. Des fois, on a des rendez-vous où avec quelqu'un, paf, on ne peut pas y aller, on n'y va pas. Mais la mort, hein? Personne. Il est appelé la grande faucheuse. Hein? Tous, ils vont y passer. Tous, ils vont y passer. Il n'y en a que deux qui sont passés à travers de la mort. C'est Élie et Enoch. Parce que Dieu les a enlevés. Pourquoi il les a enlevés? Parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Mais un jour, hein, il y aura des millions d'hommes aussi qui ne passeront pas par la mort. Et ce jour-là, ça va être lorsque le Seigneur Jésus va venir ici. Paul, il nous l'a bien dit, hein, lorsque le Seigneur il va revenir au cri d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. D'abord les morts. Et ensuite, nous qui sommes vivants, Paul, il croyait que le Seigneur Jésus serait revenu lorsqu'il était vivant. Et ensuite, il dit, nous, les vivants, nous serons tous enlevés, transformés, et nous aurons un corps glorieux. Est-ce que nos corps, ils sont glorieux maintenant? Oh non, hein? Nous apercevons tous les matins en nous regardant sous la grâce, n'est-ce pas? Un rit d'ici, là, là. Les cheveux qui tombent. Mais ce jour-là, il sera un corps glorieux, qui ne changera plus, immortel, comme celui de Jésus-Christ. Pour qui c'est toutes ces choses-là? Pour tous ceux qui ont eu, qui ont vécu une vie de foi avec le Seigneur. Hein? Ça, c'est l'attente de la foi. Et quelle est notre attente? C'est le retour du Seigneur. C'est notre espérance. Nous ressusciterons, comme il a fait avec tant de gens. Quelle joie de pouvoir être habité par ce corps incorruptible, qui ne change pas. Et ici, Abraham, il dit, nous reviendrons. Et sa promesse était certaine. Il croyait, Abraham, qu'il allait revenir. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 21, Abraham, il a eu un autre enfant, vous vous en souvenez, Ismaël. Ismaël avec la servante de Sarai, Agar. Et à un certain moment, Dieu, il a dit à Abraham, il a dit, chasse Ismaël et tu gardes que le fils que je t'ai donné par Sarah, ton seul et unique, c'est de lui que je vais faire sortir cette postérité. Ce peuple béni qui va proclamer mon nom. Voilà pourquoi il avait cette foi en Dieu. Nous reviendrons. Parce que si Isaac, Il aurait été tué. Toutes les promesses de Dieu seraient terminées. Voilà pourquoi il avait une foi inouïe en Dieu. Ça, c'est l'attente de la foi. Et alors, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il a vu, restez ici, nous allons revenir. Et au verset 6, il dit, Abraham prit les bois pour l'Holocauste. Les bois pour l'Holocauste. Hein? Ce geste solennel, il a été accompli par la foi. Il a pris du bois pour l'Holocauste, pour les sacrifices. Mais les sacrifices de qui? De son fils. Il ne s'est pas arrêté un seul moment. Il a pris les bois. Et ce mot-là, juste à nous qui connaissons la parole, à nous qui sommes chrétiens, nous doit nous souvenir de ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a fait pour chacun de nous. Il a fait quoi, le Seigneur Jésus-Christ? Il a pris le bois. Il a pris la croix, le bois sur son épaule, et l'a porté juste à Golgotha, où c'était le lieu du sacrifice. Abraham, le père, il a préparé les bois pour que son fils puisse être sacrifié. Et ainsi il a fait Dieu notre père. Il a préparé le salut, il a préparé le bois sur lequel son fils il aurait été crucifié. C'est ça l'œuvre de la foi. Ça c'est l'œuvre de la foi. Hein? Et lui qui a porté lui-même nos péchés sur le bois. Et des fois, on a du mal à se tourner vers Jésus. Et pourtant, il a porté nos péchés. Il est monté sur la croix à notre place. La malédiction qui était sur nous, il est tombé sur lui. Car le salaire du péché, c'est pour nous. Parce que nous, nous avons péché. Et c'est nous qui aurions dû être cloués à la croix. Et pourtant, lui qui n'a pas péché, il est monté à notre place. Il a pris notre place. Comme je dis ce matin, qu'est-ce que c'est qui a tenu Jésus à la croix? Hé, toi, si tu es le Fils de Dieu, descends et nous allons croire à toi. Jésus, est-ce qu'il aurait pu descendre de la croix? Oui, il aurait pu, parce qu'il est Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il devait accomplir cette volonté, cette œuvre que le Père lui avait donnée à faire. Qui enverrai-je? Je vais sauver cette humanité. Qui enverrai-je? Mais voici, envoie-moi. Il est marqué dans le livre d'Ésaïe. Ça, c'est encore un type de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ il aurait accompli. Dieu, dans son amour, il dit, je ne veux pas abandonner cette humanité. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je vais donner mon propre fils. Et Jésus, il a fait ça volontairement. Déjà, il dit, mais qui a tué Jésus? C'est les Juifs, c'est les Romains. Personne n'a tué Jésus. C'est nos péchés qui ont tué Jésus. Car Jésus, il est mort quand il a voulu. À un certain moment, il a dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Et il est mort. D'ailleurs, les gens, ils se sont étonnés qu'il soit déjà mort. Mais c'est lorsqu'il a voulu. Lui-même, il a dit, personne il m'ôte la vie, je la donne. Parce que tout était pour l'accomplissage de cette œuvre que Dieu lui avait dit. Dans nos études le mercredi, Jean-Pierre il nous a montré un peu les plans du salut. C'est Dieu le Père qui a préparé les plans. Et c'est Jésus-Christ qui l'a accompli, qui est l'auteur du salut. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a déversé, qui l'a confié à cette humanité. Oui, ici il dit, Abraham prit les bois pour l'Holocauste. C'est exactement ce que Jésus-Christ il a fait. Il avait cette foi, cette volonté d'accomplir la volonté de Dieu. Et il l'a fait. On voit aussi au verset 8, il dit à ses serviteurs, restez ici, nous on va. Et il dit au verset 8, hein, Dieu se pourvoira. Son fils. Mettons-nous un peu à la place d'Isaac. On part avec notre père. On a le bois. On a le feu. On a un couteau. On arrive. Notre père, il prépare un holocauste. Et voilà, Isaac dit, mais papa, on doit offrir un sacrifice, mais où est la bête? Il a dit, c'est toi, mon fils. Et c'est, vous savez, ici, c'est l'assurance. C'est toi. Mais Dieu pourvoira, au verset 8. Il avait cette assurance de la foi que Dieu est là. Dieu n'abandonne pas. Encore une fois, lorsque Dieu nous demande quelque chose, Dieu il nous donne la possibilité de la faire. Des fois, aujourd'hui, ça arrive très souvent, vous savez. Avant, dans notre temps, il y avait les missionnaires qui partaient partout dans le monde. Ou même nous qui sommes là parce que nous sommes... nous venons du travail, de l'œuvre d'un américain, d'un missionnaire américain. Hein? Ils allaient partout et ils n'attendaient rien en retour. Bob, combien de fois il me l'a dit, je suis venu ici, je n'avais pas un rond dans ma poche. Mais Dieu, il m'a appelé. L'appel de Dieu. Lorsque Dieu appelle, il faut répondre et Dieu il donnera toujours ce dont on a besoin pour cela. Aujourd'hui, avant que quelqu'un il part en mission, il pose des conditions. Oui, mais avant de partir, je vais avoir tant somme d'argent. Je vais avoir de l'argent parce que j'ai une famille. Et c'est juste ça aussi, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, c'est lui qui ne s'occupe pas de la famille est pire qu'un infidèle. Mais lorsque Dieu il appelle pour quelque chose... Dieu, il donne toujours ce dont nous avons besoin. Ce que Dieu, il attend, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Et c'est pareil pour les saluts, vous savez. Lorsque Dieu, il appelle au salut quelqu'un, il n'en vaut de son éternité. La vie chrétienne, bien sûr, la vie chrétienne, elle n'est pas facile. Hein? Elle n'est pas facile. Mais avec l'aide et la grâce de Dieu et du Saint-Esprit, nous pouvons la vivre. Parce qu'il nous est dit que Dieu il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre cette vie chrétienne comme il faut. Et ici, on voit l'assurance de la foi d'Abraham. Et il dit, ne t'occupe pas, Dieu, il pourvoira. Dieu, il pourvoira. C'est ça l'assurance. C'est ça l'assurance. Les seigneurs, ils ne laissent pas ses enfants. Une mère, il peut abandonner ses enfants, son enfant. Mais Dieu, jamais. Et on voit le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Des enfants qui sont abandonnés là. Nous pouvons les faire. Mais Dieu, jamais. Une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu... Dieu il est avec nous. Jésus il a dit, personne ne les arrachera de la main de mon Père. Personne. Qui peut combattre contre Dieu? Personne. On a un Dieu tout puissant, omnipotent. Et qui peut combattre contre Dieu? Personne. Voilà cette assurance qu'il avait Abraham. Dieu va pourvoir. Et des fois, je me suis toujours demandé quel était l'état d'esprit d'Abraham. Il avait cette assurance, oui, mais au fond de lui-même, je ne sais pas, hein, ça, c'est moi qui dis ça. Hein. Mais ici, on est en train de parler des fois. Hein, ça se peut que ses idées, il ne lui soient même pas tournées à la tête. Hein. Mais il faut se dire que c'était quelqu'un qui y allait, hein. C'était quelqu'un qui allait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu pourvoira. Il a pris son fils, il l'a lié. Là aussi, je me suis demandé, mais Isaac, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que c'était déjà un jeune homme. Hein. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Lâche-moi là. Voilà. Il s'est laissé lier. Aucune réaction. Ça vous rappelle rien, ça, de quelqu'un qui s'est laissé lier, qui a reçu sur lui toutes les insultes, toutes les injures, tous les crachats, et pourtant, il n'a rien dit. Il s'est laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Donc, on voit ici Abraham qui lit son fils, il le met sur l'autel, il met le bois et tout, et il nous a dit ensuite, puis Abraham étendit la main et prit le couteau, au verset 9. Parce qu'avant de mettre le feu, il fallait tuer, hein? Il fallait verser le sang. Hein? Et il est là, il a étendu la main, il a pris le couteau. Il était là. Hein? Est-ce qu'Isaac il avait les yeux fermés? Ou est-ce qu'il a fermé les... Ou est-ce que ses yeux ils étaient ouverts? Il voyait toutes ces choses-là. C'est encore une... Mais ça nous rappelle encore Jésus. Lorsqu'il a subi toutes ces choses-là, lorsqu'il était sur la croix. Et pourtant, il dit, mon père... À certains moments, il a même douté, n'est-ce pas? Il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu, là, il ne pouvait rien faire. Parce que sur le dos de Jésus, sur la croix, il avait tous nos péchés. Ces péchés qui sont une abomination aux yeux de Dieu. Et là, il nous a dit qu'il est resté là, muet. Comme une brebis qu'on mène à l'abattage. Vous les avez vus? J'ai vu un reportage sur les brebis lorsqu'ils les amènent à l'abattoir. Ils suivent les unes et les autres. Ils n'opposent aucune résistance. Ils sont là, ils y vont. Et ils se laissent tuer. Et ainsi il a fait le Seigneur. Il a laissé faire. Parce qu'il savait ce qu'il allait suivre. D'ailleurs, au larron, il lui a dit, hein, en vérité, je te l'ai dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Tu seras avec moi au paradis. Il savait qu'il allait ressusciter. Il savait toutes ces choses-là. Et ici, on voit la ténacité d'Abraham. Il met son fils là, il continue, il lève la main, prêt avec le couteau. Ténace, la foi, la ténacité de la foi. Lorsqu'on est pris comme l'était Abraham, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. Nous savons que Dieu est avec nous et nous pouvons aller. Qui peut nous faire peur? Personne. Qui nous condamnera? Ni la mort, ni la vie. Rien, personne. Je peux aller, je sais que même si je meurs, j'ai la vie qui suit. C'est la ténacité de la foi. Hein? Et qu'est-ce que c'est qu'il a vu à un certain moment? Il était prêt. Et c'est là que le Seigneur a parlé. Il a dit, arrête. Arrête. Et il lui a dit au verset 12, il dit, c'est Dieu qui parle. Je sais maintenant. Il l'a mis à l'épreuve. Il y a fait passer par tous ces moments très difficiles pour un père et pour un fils. Mais au tout dernier moment, arrête. Je sais maintenant. Ça, c'est l'épreuve de la foi. Et Dieu, il attend ce moment propice là. Samuel, vous rappelez Samuel? Samuel, il a dit à Saül, on va aller combattre les Amalécites. Je vais partir, je vais être là dans 3 jours. On va offrir un sacrifice au Seigneur. Et ensuite, vous irez et vous allez combattre et battre. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Le peuple commençait à s'impatienter. C'était le 3e jour. Et Samuel n'était pas là. Alors, le peuple commençait à dire, mais alors... Qu'est-ce qu'on fait là? On va détruire ses ennemis ou pas? Saül, il a pris peur et qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert un sacrifice lui-même. Chose qui était interdite. Il offre les sacrifices, Samuel arrive. Samuel arrive. Il a dit, n'étais-je pas dit d'attendre 3 jours? Eh oui, mais le peuple commençait à s'impatienter. Ah, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu, il attend le dernier moment, lorsque nous n'en pouvons plus, lorsque nous sommes au bord. C'est là que c'est l'épreuve de la foi. Voilà pourquoi il lui dit à Abraham, je sais maintenant que tu as assez de foi en moi, qu'il n'y a rien qui a pu t'arrêter. Je sais maintenant. Arrête. Tu vas m'offrir un sacrifice, mais pas avec ton fils. Il tourne la tête, qu'est-ce qu'il voit? Il y avait une bête qui était là. Ne l'avait-il pas vu avant? Pourtant, il avait eu le temps de construire l'autel, de lier son fils et tout ça. C'est qu'il n'y était pas. Mais c'est Dieu qui a pourvu. Et ça, c'est pour chacun de nous. Nous avons la foi en Dieu. Car il faut l'avoir, car sans la foi, il est impensable d'être agréable à Dieu. Mais aussi, il y a cette épreuve, les sacrifices de la foi. Il y a l'obéissance de la foi. Il y a l'attente de la foi. Il y a l'œuvre de la foi. L'assurance de la foi. Il y a la ténacité de la foi. Tenir jusqu'au bout. C'est alors que le Seigneur, je sais maintenant, je peux te faire confiance. Je vais t'utiliser comme il faut. Oui, tu m'aimes, comme moi je t'ai aimé par mon Fils Jésus-Christ. Et je vais te conduire là où tu ne le pensais même pas. C'est ce que j'ai dit à mon frère Oscar tout à l'heure. Ce qui lui est arrivé, hein, que c'est ce grand homme riche qui lui a dit merci, mais c'est normal. Dieu, il fait la même chose avec nous. Si nous nous comportons bien, si nous faisons les œuvres de Dieu, si nous témoignons pour Dieu, si nous évangélisons pour Dieu, au tribunal de Christ, le Seigneur, il va nous donner les récompenses pour ce que nous avons fait pour lui. Et ainsi, c'est cette foi. Hein? Et il nous dit, le Seigneur, il nous le dit dans Matthieu 5, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il croit en Dieu. Hein? Et le Seigneur, il dit, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Quelle est notre foi en Dieu? Que cet exemple d'Abraham puisse nous servir pour que nous puissions glorifier encore plus et davantage notre Seigneur et notre Dieu. On va terminer par la prière. Jean-Pierre, veux-tu prier?